Maintenant, on est dans l'Apocalypse, chapitre 20. Pour ceux et celles qui sont nouveaux ce matin ou de retour ou qui écoutaient en ligne pour la première fois, on est dans le livre d'Apocalypse. On est dans une série depuis un an parce que on a été interrompu par mon paternité. Alors, j'ai été absent pendant quelques mois et donc on n'a pas pu terminer la série à la fin juin. Donc, on complète et on est dans les derniers 1000. Et je suis vraiment content de faire cette série avec vous. Ça faisait des années que le Seigneur m'avait mis à cœur, à un moment donné, de prendre le temps d'enseigner le dimanche matin le livre de l'Apocalypse pour montrer à tous et chacun le plan de Dieu et que la révélation de Dieu même du premier livre, de la Genèse, jusqu'au dernier livre de l'Apocalypse est compréhensible à tous et chacun, et même pour un enfant. Amen. C'est pas une vérité qui est mystérieuse. Lorsqu'on prend le temps de lire du début à la fin, du premier livre au dernier livre, on peut comprendre. Et c'est ce qu'on a découvert à travers tout le livre d'Apocalypse. Et que la personne centrale, le personnage central d'Apocalypse, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Antichrist. Ce n'est pas de parler des choses de l'avenir. Jésus-Christ est la vedette. Et je dirais plus que ça, Jésus-Christ est le super-héros. Ma fille m'a demandé hier, « Papa, toi, dans les bandes dessinées, là, c'est qui ton super-héros préféré? » Puis moi, je suis super mononcle, plate au bout. Je dis, « J'en ai pas vraiment. » Je dis, « Moi, mon seul super-héros, c'est Jésus. » Quand je lis l'Apocalypse, tout ce que je lis sur Jésus, ce sont les traits de super-héros qu'on essaie de prendre d'un bord puis de l'autre dans les bandes dessinées sur sa justice, sur ses pouvoirs, sur ses capacités, sa connaissance, etc. Jésus-Christ, c'est le seul super-héros qui existe. Le seul vrai super-héros, par lequel ses mérites, on peut bénéficier. On va en parler ce matin. Mais je vous compte, avant de commencer, mon parcours avec le livre de l'Apocalypse. Parce que je vous dis, ça fait des années que j'ai ça à cœur. Mais d'où ça vient? Il y a 26 ans de ça, lorsque j'étais pasteur en formation à l'église baptiste de Longueuil, en 96, à la même époque, j'étais en train de faire un cours sur l'Apocalypse. C'était ma dernière année de bac. Et je devais lire un livre ou deux, j'oublie. Et je devais faire sur deux pages, une sorte de portrait visuel du livre de l'Apocalypse. Et là, j'ai passé littéralement un mois à passer deux jours par semaine à gratter le livre d'Apocalypse, de lire, d'étudier, de noter, pour être capable de me faire une tête, de comprendre qu'est-ce qui se passait, de le mettre en image. Et je vous dirais que c'est à ce moment-là que tout ce temps passé-là, il y a une image qui s'est mise dans ma tête, que j'ai dessinée, que j'ai encore aujourd'hui, de ces travaux de dernière année de bac, qui m'ont aidé à saisir un portrait global du livre d'Apocalypse à la fin de mon bac. Deux ans plus tard, je prenais un cours avec M. Don Carson, qui est très apprécié parce que c'est un grand docteur en théologie en Amérique du Nord, qui est lui-même aussi francophone, qui a grandi au Québec avec un père missionnaire à Drummondville, qui a fait du porte-à-porte au Québec et qui est aujourd'hui un grand théologien aux États-Unis d'une grande renommée internationale, qui a écrit beaucoup de commentaires. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec lui en 99 et de suivre un cours au niveau maîtrise, de faire des travaux. Et là, d'écouter un homme qui avait une autre perspective complètement différente. Un homme qui, dans son ensemble de l'Apocalypse, l'interprétait d'une façon amillénariste, c'est-à-dire de croire que c'est l'interprétation de ce qu'on lit s'est passée dans l'histoire de l'Église jusqu'au chapitre 20. Où ce que les croyaient qu'au chapitre 20, non, et c'est dur à passer, il y a des 1000 ans, c'est une période symbolique d'une longue période de temps, pas nécessairement 1000 ans littéral, et c'est comme ça qu'il l'exprimait. Et là, j'ai eu l'occasion de m'asseoir pendant 20 heures, de faire des travaux pour prouver des points et gratter encore plus loin dans le livre d'Apocalypse avec une perspective complètement différente de la mienne pour la mettre à l'épreuve. Vous savez, c'est correct d'avoir une pensée, une compréhension. C'est bon d'accepter de mettre à l'épreuve nos pensées. Et voir, est-ce qu'il y a d'autres manières d'interpréter par des chrétiens qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, qui partagent leur foi, qui ont une relation avec Dieu et qui sont respectables, et d'entendre un peu pour mettre à l'épreuve nos pensées. Et puis, à travers les années, bien, j'avais à cœur de l'enseigner. J'ai enseigné plusieurs fois les 7 églises d'Apocalypse. Mais en 2018, j'ai fait un plan, 2017-2018, j'ai fait un plan 4 ans que j'ai présenté au conseil. J'ai dit, écoutez, frères, voici ce que j'anticipe enseigner à l'Église au cours des 4 prochaines années. Ils ont dit, OK, bon, t'as pas demandé ça, Joël, je comprends. Mais j'aime ça prévoir d'avance, réfléchir et tout ça, évidemment, à mettre au pied du Seigneur. Le Seigneur a changé des choses en cours de route. Mais j'avais planifié pour les 4 prochaines années l'enseignement et dans la 4e année, de faire le livre de l'Apocalypse. Les frères ont dit, Joël, on te fait confiance, c'est bon, vas-y de l'avant avec ce plan-là. Le Seigneur a changé des choses en cours de route. Les choses intéressantes, je ne savais pas qu'il y aurait la pandémie, évidemment, comme chacun d'entre nous. Et je savais pas non plus que dans la 2e année de ce plan-là, Parole de vie Bethel m'approcherait pour enseigner le livre d'Apocalypse aux étudiants de Parole de vie Bethel. Et que je continuerais à gratter et poursuivre l'étude dans l'Apocalypse. Et tout ça s'est mis en place pour que finalement, l'année dernière, je commence cette série. Et c'est pas pour rien que quand je vous le communique, je suis passionné, je crois vraiment à l'importance de saisir le message central du livre de l'Apocalypse. Qu'il y a un seul sauveur. Et que ce sauveur-là est venu nous sauver et qu'il y a un plan pour le futur. Et il nous donne les grandes lignes. Et il veut nous y préparer. Et il n'y a personne qui va avoir des excuses. Pour dire, ah, je n'étais pas au courant. Ah, oh, je savais pas. Ah, ouais. Ah, oh. Non, non. Il n'y en aura pas. Et ce livre d'Apocalypse est traduit dans le langage de plus de 1000 nations. 1000 langues à travers le monde. Plus de 6 millions, milliards de gens sur la Terre peuvent le lire dans leur langue. Sans compter le fait que peut-être ils ne peuvent pas lire dans leur langue, mais dans leur langue secondaire, il y a un accès à la parole de Dieu. C'est disponible. Mais il faut encore le prendre au sérieux et prendre le temps de le lire. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de le lire, de le digérer, de le mâcher morceau par morceau. Et là, ici, on est dans les derniers 1000. Les deux prochaines fois qu'on va parler ensemble, on va regarder le chapitre 21 et 22, regarder ce portrait de l'éternité que Dieu nous donne du ciel, de la nouvelle Jérusalem. Mais là, on est dans le chapitre 20. Ce règne sur terre de 1000 ans. On ne sait pas tout sur le règne de 1000 ans, mais on lui donne les grandes lignes ici. Et on nous exprime aussi les grands événements. Et on a regardé le premier grand événement, c'est celui que Satan va être lié pendant 1000 ans. Il n'aura plus le pouvoir qu'il a présentement d'influencer le monde, d'influencer les pouvoirs politiques, de jouer sur la persécution envers les croyants, de s'attaquer aux croyants de différentes manières pour les affaiblir, les décourager, les opprimer. Et on va poursuivre au chapitre 20 et lire quelques versets ensemble. Après ce premier grand événement, ben au chapitre 20, verset 4, on lit le deuxième grand événement qu'il y a. Et je vous lis à l'instant ces quelques versets. Bon, ça ne marche pas, ça, ici. Lisons ensemble. « Et je vis des trônes, au verset 4. Et ceux qui vinrent y siéger, il fut donné d'exercer le jugement. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités. » Donc, on précise ici, c'est un mot qui est utilisé seulement une fois dans le Nouveau Testament, ceux qui ont été décapités à la hache, littéralement. On comprend que ce sont les martyrs de la période de la tribulation. « À cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu. » C'est pour cette raison-là qu'ils ont été tués. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ou son icône, et n'avaient pas reçu la marque sur le front, ni sur la main. Ils revinrent à la vie, ou ils ressuscitèrent, et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ça fait déjà la troisième fois que le mot 1000 ans apparaît dans notre texte. Les autres morts, donc ces morts-là, qui sont une catégorie, un groupe de croyants qui sont ressuscités, qui vont régner, il y a d'autres morts qui revinrent à la vie, mais qui ne reviennent pas avant l'accomplissement des 1000 ans, donc à la toute fin. Ça, c'est les gens qui ne sont pas croyants. C'est la première résurrection qu'on vient de décrire au verset 4. Heureux. C'est une bénédiction ici qui est prononcée, comme le psaume 1, comme aussi 7 autres fois. Dans le livre d'Apocalypse, il va dire « Heureux celui qui vit ceci ou qui vit cela ». Une promesse de bénédiction, de bien-être, au pluriel, multiple. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Sur eux, voici pourquoi dans le fond ils sont heureux, sur eux la seconde mort n'a pas d'emprise. Il y a une deuxième mort. On meurt une première fois, puis il y a une deuxième mort. On va en reparler. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Donc, ça veut dire que quand on va ressusciter, on ne va pas être sur des nuages en train de jouer de la guimbarde, puis de la harpe, puis de chanter, puis d'être tout nu sur des petites ailes, sur un nuage. Ça, c'est dans Astérix et Obélix, les amis. Ce n'est pas dans la Bible, OK? On fait la différence entre les deux. Hein? Non, on nous dit qu'on va être... On va avoir l'occasion de servir Dieu, d'être des prêtres pour Dieu et Christ. Et on va régner avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché, donc pas avant. Et qu'est-ce qui arrive quand il sera relâché de sa prison? Il s'en ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog, il les rassemblera pour le combat. Leur nombre est inconnu, est comme, excusez-moi, le sable de la mer, c'est-à-dire innombrable. Ils envahirent toute l'étendue de la terre et investirent le camp des saints. Encore une fois, ils s'attaquent contre les croyants. Et la cité bien-aimée, qu'on comprend ici comme étant Jérusalem, là où on dit que Christ va régner dans Zacharie chapitre 14. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, un peu comme Élisée lorsqu'il est à l'autel avec les païens, qu'il fait descendre le feu du ciel. Et le diable, leur séducteur ou celui qui les égare, fut précipité dans l'étang de feu et de soufre auprès de la bête et du faux prophète. Et ils souffriront des tourments ou de la torture, littéralement, le mot ici traduit pour la torture, jour et nuit, au siècle des siècles. Prions ensemble. Bon, Père Céleste, on vient de lire ta parole et on aimerait te demander de nous aider à comprendre non seulement son contenu en termes de connaissance, de comprendre et d'avoir du savoir de plus, Seigneur. Mais on aimerait te demander, Seigneur, de nous faire savoir ce que tu veux qu'on comprenne personnellement. On sait bien des choses, Seigneur. Et combien de ces choses qu'on sait apportent réellement du changement au quotidien. Que ta parole amène du changement dans mon quotidien. Que ta parole change ma manière de voir l'avenir, ma manière de voir le présent, ma manière de voir l'utilité de ma vie. Aide-nous à saisir les vérités et comprendre qu'est-ce que tu veux me dire à moi, moi personnellement, ce matin. On te le demande, Papa Céleste, s'il vous plaît. Fais-le, on te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc, vous avez les quatre grands événements ici. On vient d'en lire deux, le deuxième et le troisième. On va lire dans quelques instants aussi le quatrième. On est dans ce parcours du chapitre 20, des événements importants et charnières qu'on doit se rappeler. Et quand j'enseigne le cours, je demande aux étudiants d'apprendre ces quatre points-là. C'est le fait saillant qui résume tout le contenu du chapitre en toute simplicité. Quatre grands événements qu'on doit se rappeler. Il y a des grandes chaînes qui sont mises autour de Satan qui est lié. Il y a une grande résurrection. Il y a une grande rébellion finale et il y a finalement aussi un grand trône blanc où grands et petits seront jugés indépendamment de leur grandeur, de leur âge, de leur statut, de leur argent, de leur statut social, peu importe. Tous y passent sans aucune exception à ce jugement. On parle de la première résurrection et peut-être c'est bon aussi de se rappeler qu'on parle de 1000 ans ici 6 fois. Utilisé et décrit pour parler de ce règne de 1000 ans du Seigneur sur terre, un terme qui est utilisé dans le passé, les gens qui appelaient le millénium, ils appellent ça le chialisme. C'est pas le chiolage, c'est pas pareil. C'est simplement que ça vient du mot grec pour 1000 ans, tout simplement. C'est l'ancien terme qu'on utilisait parfois dans les vieilles lectures. Vous allez trouver ce terme-là pour parler de ces 1000 ans. Et finalement, Christ et son Église régneront, on nous dit, sur les nations, sur la terre. Et Israël jouira aussi de toutes les bénédictions promises par les prophètes et qu'on retrouve entre autres dans Ézéchiel. Vous savez, à la toute fin d'Ézéchiel, il y a un chapitre, les deux derniers chapitres, qui décrit le territoire d'Israël comme jamais on l'a vu dans l'histoire, prendre toute sa place comme Dieu l'avait promis dans le livre de la loi. Et là, on voit un grand temple millénaire dans les derniers chapitres d'Ézéchiel qui trouve tout son sens où? Dans le millénium. Où ce qu'il règnera littéralement sur terre. Où Zacharie chapitre 14 nous exprime comment la terre va venir à chaque année pour célébrer. Ça va être un moment incroyable où les gens de toute nation vont venir voir Christ à Jérusalem et célébrer les grandes fêtes en souvenir et dont l'accomplissement se trouve entièrement dans la personne de Jésus-Christ. Maintenant, qui sont les gens qu'on vient de lire ici? Monsieur Ryrie, qui a écrit un commentaire il y a une 60aine d'années, qui a été traduit en français par Monsieur Wesley Peach, résume bien ici ce qu'on a comme contenu. Alors, je vous lis tout simplement, je ne pouvais même pas mieux le résumer. Il dit simplement, Jean a apparemment vu 3 groupes ici de saints qui nous est écrit dans ces versets au verset 4. Il a vu d'abord ceux qui étaient assis sur des trônes, qui partagent le jugement, apparemment une référence à l'Église, qui est ressuscité avec lui, qui est déjà couronné et qui est descendu avec lui sur terre. Puis, un autre groupe, particulier des martyrs, ceux qui ont été décapités à la hache. Littéralement, le mot signifie tuer à la hache. Ce moyen d'exterminer était pratiqué par, évidemment, l'Empire romain antique. Enfin, il y a ceux qui avaient refusé d'adopter, évidemment, de plier les genoux devant la bête et porter sa marque. Et il, ici, se réfère à ce dernier groupe qui vivent et règnent avec Christ pour cette période de 1000 ans. Les autres auront déjà été ressuscités lors de l'enlèvement, l'Église, mais ce dernier groupe sera ressuscité à la seconde venue de Christ. Et c'est là, des fois, que vient un défi. C'est-à-dire que là, il y a 1000 ans, c'est bon. Il y a une résurrection, c'est bon. Mais là, oh, il y a une première résurrection, mais là, dans la première résurrection, c'est comme il y a 2 ou 3 étapes. Là, un peu comme Christ, quand on le regardait dans l'Ancien Testament, les gens, ils vont revenir, le Messie va venir. Mais finalement, on réalise qu'il vient en 2 étapes, le Seigneur Jésus. Il vient une fois, et là, on comprenait pas ça dans l'Ancien Testament, et là, Jésus vient une fois, puis il dit, je vais revenir à la fin pour mon jugement. Là, je viens pour accomplir le sacrifice qui permet le pardon des êtres humains. Mais pour les gens dans l'Ancien Testament, ils regardaient en avant, puis c'était pas clair, c'est devenu en 2 étapes, vous comprenez? À mesure qu'on avance, tout à coup, on nous décrit des choses, et là, on réalise que il y a une première résurrection, il y en a une deuxième, OK. Puis là, dans la première, il y a l'Église qui est enlevée, qui est déjà là des saints, puis il y en a d'autres ici qui sont ressuscités. Et on voit, dans le fond, que la première résurrection se fait comme en 2 étapes. Et il y a d'autres qui vont être ressuscités, qui sont pas croyants, qui sont à la toute fin du millénium. Tu vois, ouais, Joël, tu m'as perdu, là. Combien disent « Amen », tu m'as perdu? OK. Alors, je le répète. C'est important. Parce que des fois, on dit, il y a une seule résurrection. Oui, mais on voit qu'en lisant les Écritures, on nous donne plus de détails. Et là, on découpe ça, on réalise, il y a une première résurrection, mais qui se fait en 2-3 parties. L'Église se fait enlever, premièrement. Et là, on dit que, c'est les livres de Paul dans Thessaloniciens, chapitre 4, et également 1 Corinthiens, chapitre 15, que vous trouvez cette description-là de l'enlèvement de l'Église. Et on voit que les chrétiens qui sont morts vont ressusciter, les chrétiens vivants vont être emportés. OK. Mais là, on réalise dans l'Apocalypse qu'il y a une venue de Christ avec les saints avec lui, qui sont déjà ressuscités, récompensés. Et on voit que quand il vient pour instaurer le 1000 ans, au début, il y a une résurrection de ceux qui ont été décapités. Fait que ça veut dire qu'il y a d'autres croyants, à la fin de la tribulation, qui sont ressuscités au début de son règne. Vous me suivez?
Ouais.
Ceux qui n'ont pas été emportés avant, à quelque part, dans les débuts, et qui ont été décapités. On voit la distinction ici qui est faite entre les deux. Et là, on ne peut pas parler d'une résurrection spirituelle ou de conversion. C'est des gens décapités à la hache. On est loin ici d'une description de revenir à la vie, d'une résurrection symbolique qui serait spirituelle et qui serait la description de la conversion. Ça marche pas vraiment. Puis on voit que c'est des morts littérales après ça aussi qui sont décrites dans le reste du chapitre. Alors pourquoi certains seraient spirituels, d'autres seraient littérales? La manière à jouer à ça, là, ça vient compliqué. Et là, on voit qu'il y en a d'autres qui vont ressusciter, qui sont pas croyants, qui sont pas ressuscités avant le 1000 ans. Mais à la fin des 1000 ans, pour finalement être jugé dans la description de la scène qu'on va voir à la toute fin du chapitre. C'est comme si la première résurrection, on voit comme 3 groupes, 3 étapes. Vous me suivez un peu plus? C'est important de le saisir. Mais il y a une résurrection, puis si le Seigneur est attentionné, puis on en comprend un peu plus maintenant qu'on ne comprenait pas lorsque Jésus parlait, mais que l'Apocalypse nous donne un peu plus de détails. Vous voyez, vous rappelez cette image que je vous ai dit de voir des grandes montagnes au loin? Et quand on les regarde, c'est difficile de distinguer lequel est plus haut, l'espace entre différentes montagnes. Mais plus qu'on s'approche, tout à coup, on peut distinguer des montagnes. Oh, a l'air plus loin que je pensais, celle-là. Oh, il y a une vallée de 10 kilomètres. Ça se voyait pas de loin. Et là, on s'approche encore un peu plus. Puis là, OK, il y a une résurrection. OK, il y a des distinctions à faire ici à différentes étapes. Comment va se faire la première résurrection? Que le Seigneur nous explique. OK. On s'approche et on comprend un peu plus. Et là, on peut voir, il y a une vallée entre tel événement et tel événement de 1000 ans. On le voyait pas aussi loin en arrière. On avait de la misère à comprendre. Et encore, les amis, plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Et que c'est correct. Amen? Est-ce qu'on a besoin de tout comprendre? Dieu nous donne assez pour comprendre, pour croire. Assez pour marcher par la foi. Pas trop pour nous enorgueillir. Mais vous savez, c'est quoi le piège? Il y en a un gros. C'est parce que là, je viens de vous dire ça, c'est bien beau. Mais là, des gens ressuscités qui viennent avec Christ dans son règne sur terre et qui cohabitent avec d'autres personnes qui sont sur terre, qui ne sont pas ressuscitées. Weird. OK. Comment t'expliques ça? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est pas écrit. Alors, si je vous l'explique, je vais parler complètement à travers mon chapeau. Et je voudrais surtout pas faire ça. Mais la tentation, c'est d'essayer d'expliquer ça. J'en ai pas vraiment d'explication, pour dire honnêtement. J'ai lu des explications, mais il y a tellement de spéculations que ça devient troublant. Puis on crée d'autres problèmes avec nos spéculations. Avoir expliqué ce qui nous a pas été expliqué, vous savez ce qu'on fait? Pour être bien honnête, on tombe dans l'arrogance. De vouloir déchiffrer, lire entre les lignes. Puis c'est comme, ah, attention en lisant entre les lignes. C'est dangereux. Parce que là, il y en a qui vont dire ceci. Ah, ben tu vois, dans le fond, la Jérusalem qui céleste, qui descend au chapitre 21, ben les croyants, eux autres, vont vivre là en attendant, puis les autres sur terre. Oui, mais il dit qu'on va régner avec lui sur terre. On crée un autre problème. Ah, mais dans le fond, la Nouvelle Jérusalem, elle ne va pas encore arriver, elle va juste descendre du ciel, mais elle est déjà là, puis il y en a qui vont être en haut, il y en a qui vont être en bas. Ouais. OK. Peut-être. Peut-être que non aussi. C'est pas écrit. Et là, en voulant faire ça, mais là, on crée d'autres problèmes parce que là, ça va affecter notre interprétation au chapitre 21. D'où vient cette nouvelle Jérusalem-là? Est-ce vraiment nouvelle ou finalement elle est en suspension, elle attendait? Je sais pas. Non, là, on crée tout. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On s'enlise, là. Parce que là, il faut expliquer d'autres affaires. Et vous savez, si le Seigneur ne nous explique pas, mais il nous en donne assez, puis toutes les fois qu'il a parlé, il n'a jamais parlé à travers son chapeau. C'est là que je me dis, il faut que je fasse attention. Et de ne pas jouer à la spéculation et à la devinette chrétienne. Voici ce que je sais. Puis la personne commence à certaines affaires, je ne sais pas encore. Puis si Dieu ne me l'a pas révélé, c'est parce que je n'ai pas vraiment besoin de le savoir, ce détail-là. J'ai juste assez pour regarder, il y a un plan, l'anticiper, puis que ça m'encourage au présent vers ce qu'il a d'avance annoncé pour nous. Et si je tombe dans l'autre côté, attention. Il y a tellement d'arrogance naturelle en nous qui veut tout expliquer, qui voudrait tout décortiquer. Puis là, là il y a ceux qui ont compris, puis il y a ceux qui n'ont pas compris. T'sais? Là, tu te sens bien là, dans ceux qui n'ont pas compris. Embarquons pas là-dedans. Et il y a plein de livres qui perdent beaucoup de temps là-dedans. Je suis tellement désolé de voir beaucoup d'écritures de spéculation, mais qui créent d'autres problèmes. Et ça vient, en quelque sorte, vous savez, cultiver l'arrogance naturelle qui est en moi. Ah, moi, j'ai compris plus que les autres. On aime ça saisir les intrigues. Puis c'est comme... Non, Dieu ne veut pas que je mette mon énergie là. Il veut que je mette mon énergie à me coller à son esprit pour dépendre de lui, à parler de Christ, à vivre au quotidien les défis que j'ai à relever et pas passer du temps à spéculer et finalement de rêvasser à quelque chose quand je ne vis pas au 100% dans le présent. Vous comprenez? C'est là le piège. Et c'est un piège tellement facile à tomber dedans. Il nous invite ici à faire attention. Et c'est un avertissement que je prends le temps de dire à ce moment-ci parce qu'il y a des questions qui peuvent venir parce que là, tout à coup, la résurrection soulève certains défis. On a les grandes lignes. Croyons dans les grandes lignes. Ils sont suffisants pour nous pour avancer avec ce qu'on sait. Maintenant, trois raisons. Je l'ai mentionné brièvement l'autre fois, mais pourquoi on croit que c'est corporel, cette résurrection-là, et non juste spirituelle? Bien, premièrement, on dit littéralement qu'ils sont morts à la hache. Je l'ai déjà mentionné. Deuxièmement, l'expression « élevé à la vie » est utilisée ailleurs dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse pour parler d'une résurrection physique. Fait que là, d'y imposer tout à coup que hey, « ici, c'est spirituel ». Attends un peu, Jean, il l'a utilisé comment à d'autres endroits? Il l'a-tu utilisé d'une façon spirituelle ou physique? Il faut regarder les antécédents. Et là, pas tout à coup, parce que j'ai un malaise ou mon interprétation amène quelque chose aussi que je ne suis pas à l'aise avec, que là, j'essaie de tordre un peu le sens. Alors que l'usage ailleurs, naturel, c'est une résurrection physique. Alors, il faut faire attention à ces choses-là. Troisièmement, l'Apocalypse chapitre 20, ben, les morts qui reviennent à la vie vont être jugés et les coupables seront condamnés à une seconde mort. Logiquement, la seconde mort est comprise comme littéralement. Alors, pourquoi la première ne le serait pas? À un moment donné, il faut rester cohérent dans ce qu'on est en train de lire. Et c'est là qu'en faisant des spéculations, en voulant changer le sens des mots, les spiritualiser, mais on crée d'autres problèmes d'interprétation. Attention. Matthieu chapitre 27. Vous savez, une des choses intéressantes qui arrive lorsque Jésus est ressuscité des morts, et on ne s'y attarde pas beaucoup, c'est seulement l'évangile de Matthieu qui le souligne. On dit qu'il y a des gens qui, à sa mort, sont ressuscités des morts et qui ont marché dans la ville. On n'en parle pas souvent de ça, hein? Et en quelque sorte, on peut dire que ces saints ressuscités étaient les premiers fruits offerts à Dieu comme paiement pour la première résurrection. La deuxième paiement vient quand Christ viendra pour son Église à la fin de cet âge, avant la tribulation des 7 ans. Et si Jésus, juste par sa résurrection sur le coup, il y a des saints qui sont revenus à la vie, il est en train de dire, écoutez, je vous ai dit que vous allez rester, c'est garanti. Juste sa mort bouleverse les tombeaux autour et amène ce phénomène-là incroyable qui nous dit, non, quand Jésus parle de résurrection, il ne parle pas de résurrection spirituelle. C'est bien réel, tout comme la sienne est réelle et tout comme ces gens étaient bien réels. Et Jésus va parler aussi de régner. Je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, c'est nous, ça, ceux qui ont cru en lui, qui le suivent, il dit, vous serez de même aussi sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc, ce jugement qui se passe à la toute fin de la période de la tribulation, qui nous parle de régner avec lui. Donc, Jésus en parle, et non seulement Jean. Jean, ici, nous raconte ce qu'il lui a appris dans le livre d'Apocalypse, dans cette révélation qu'il a reçue de Jésus. Mais il avait déjà reçu, dans le ministère de Jésus, plusieurs indications à ce niveau-là. Puis c'est comme si tout ça prend forme. Et il permet à Jean de le savoir, de le recevoir et de nous le partager. Pour que nous aussi, on puisse avoir une grande image de ce que le Seigneur a ici en réserve pour nous. Quelques autres versets pertinents. Selon la promesse aussi de l'Église à Thyatire, on dit que les 12 tribus sont pas les seuls à régner. Les vainqueurs régneront avec ceux qui ont persévéré. Il dit les vainqueurs, c'est ceux qui ont continué malgré les embûches. Le vainqueur, c'est ce qui décrit le croyant persévérant et qui est donné à plusieurs fois aux 7 églises d'Apocalypse comme titre. Le vainqueur, voici ce qu'il va avoir. Mais il va régner. C'est mentionné dans ces versets-là. Puis aussi, Paul, dans cette référence-ci, dans 1 Corinthiens chapitre 6, dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Vous savez pas ça? C'est clair. Il y a d'autres choses qu'il enseignait dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et là, Paul le réitère ici par l'enseignement qu'il a reçu. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Entre nous, comme chrétiens, c'est correct quand on a des problématiques d'avoir des moments où il faut juger des causes difficiles parfois. Parce qu'il dit, un jour, vous allez juger. Vous avez été rendu apte à Dieu de gérer ça entre vous. Là, ici, je pensais de parler de bypasser la loi. J'ai envie de prendre soin des nôtres, d'intervenir, d'avoir des moments où il faut juger des situations. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Imaginez. Parce qu'il y a des anges qui ont fait défection, qui ont abandonné leur rang, qui ont vu Dieu parfait, puis qui ont décidé de suivre le diable et d'aller vers d'autres plans, et qui ont été chassés du ciel. Ils vont être jugés. Il dit, par qui? Par les saints, qui ont été rachetés. Et nous ne jugerons pas, à plus forte raison, les choses de cette vie. C'est un argumentaire de Paul ici pour dire, oui, on est capable de rendre des jugements dans des situations difficiles. L'effet de cette promesse, qu'est-ce que ça devrait faire sur nous? La promesse du règne avec Christ doit susciter en nous, premièrement, de l'humilité et de la reconnaissance profonde. Et non l'orgueil ou la soif de vengeance envers ceux qui rejettent, parce qu'on ne sait pas jusqu'à la dernière minute le moment de repentance de tous et chacun auquel on est appelé. On ne sait pas la fin de l'histoire, nous autres, de la vie de chacun des gens autour de nous. Nous étions indignes et méritions la colère de Christ. Christ nous a sauvés de la colère par lui seul, nous a rendus dignes de siéger avec lui. C'est un moment de réjouissance que nous devons anticiper avec reconnaissance. Fait que déjà, là, c'est le sentiment de « Wow, quel privilège! » Je n'ai pas à me vanter, c'est par le mérite de Jésus qu'on a parlé tantôt, que j'ai ce privilège. Ce n'est pas lié à mon accomplissement, à mes grandes prouesses chrétiennes, à mes grands pas de foi, au nombre de personnes que j'ai conduites à Christ et toutes les histoires missionnaires que j'ai pu accomplir. Non. C'est strictement lié au mérite de Christ qu'on peut bénéficier. Et en dedans de moi, c'est ce qui m'amène à avoir une profonde humilité, une grande reconnaissance, et que ma vie à ce moment-là devient une offrande à Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, parce que ma vie, finalement, elle a été sauvée, elle n'avait pas de valeur. Là, elle est sauvée, bien, c'est comme, bien, Seigneur, faisant ce que tu veux, le court moment que je suis sur terre, je veux qu'elle soit utile pour toi. C'est là que tout à coup, ma vie ne trouve son sens qu'en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Si je comprends que ma vie était perdue sans ça, et que toute forme de résurrection dans l'avenir dépend de ce que Christ a fait. Qu'est-ce que ça change dans mon immédiat? Ben, je veux vivre évidemment une vie conformément à sa volonté à cause de ça. C'est pour ça que je veux gérer ma vie, ma santé, mon temps, ma sexualité, mon argent, mais tout en fonction de cette vie qui est tellement courte présentement, avec une vie éternelle qui m'attend, que Dieu a préparée. C'est comme, pourquoi je m'attache tellement sur terre? C'est juste temporaire. chercher la sainteté à tous les jours. C'est ça qui motive que je vais faire des choix qui vont être différents des autres. Parce que le Seigneur m'aide et il me montre que j'ai pas les mêmes aspirations parce que j'ai un sauveur. Que je prends pas non plus pour acquis les vérités et la grâce que j'ai reçues. Qu'ils ont tous une grande valeur. Que je suis reconnaissant pour la promesse. Et quand c'est difficile, je peux m'attacher à une promesse qui est là, qui dit que genre ça, il y a ça qui m'attend, il y a ça qui m'attend. OK, c'est pour ça que je continue puis que je me laisse pas décourager. Par la vie, par les gens. Je peux trouver du réconfort dans cette époque d'incertitude et de confusion autour de moi. Alors que les gens sont découragés puis disent, pourquoi je travaille autant, dans le fond? Pour en profiter. Peut-être avoir un cancer avant ma retraite. Je travaille tout pour ma retraite, puis finalement, je suis joué de ma retraite, je sais pas. Je place de l'argent pour finalement des fluctuations en bourse, puis peut-être que je toucherai jamais à cet argent-là. Je me garde en forme, puis je veux juste me garder en forme, puis peut-être je vais me faire frapper par un auto à 45 ans. Je veux pas être pessimiste, mais tous ces efforts-là pour un futur complètement incertain et confus. Au niveau de la foi, parce qu'évidemment, confus, parce que les gens, ils savent plus en quoi croire, ils ont plus de fondements, ils ont rejeté les fondements chrétiens. Fait que là, pourquoi croire? Ben là, tu peux faire n'importe quoi. Ben lui, il croit ça. Mais là, quoi croire? Est-ce que ça vaut croire, finalement? Tout le monde fait croire ce qu'il veut. Ben là, t'es pas dupe, là. Si tu crois juste ce que tu veux, t'as pas grand fondement, qu'est-ce que ça fait? C'est beaucoup d'insécurité, ça, là. Et on le voit, qu'est-ce que ça fait, l'insécurité, la confusion? On le voit autour de nous. Ça apporte un comportement insécure et confus. Et des réactions insécures et confuses. Que la parole, elle, nous donne comme solide fondement. Il y a des passages que vous pourrez prendre en note, et ceux qui ont mon PowerPoint, que vous pourrez lire. Il y a Ésaïe, chapitre 11, verset 2 à 10, et dont la fin parle justement d'une période à venir où ce qu'il y aura, les nourrissons vont vivre plus longtemps, qui, les bêtes vont pouvoir cohabiter des bêtes voraces, comme le lion à côté ou le loup à côté de la chèvre, à côté des bêtes qui mangeraient normalement. Il nous parle de des choses dans le futur différentes, et tout ça trouve son sens dans les paroles de gens qui nous parlent d'un royaume millénaire, où le Seigneur va être sur terre, où il y a des choses qui vont être différentes, et que le livre d'Ésaïe, par exemple, au chapitre 65, va parler aussi de vivre plus longtemps, de ce changement de nature. Vous pourrez lire ces versets-là, et vous allez voir, ils trouvent leur sens dans le millénium, comme bien des textes de l'Ancien Testament qu'on échappait, mais je ne prends pas le temps de lire parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, il y a la première résurrection, il y a la rébellion. Et là, on lit ceci, l'égarement qui se passe à la toute fin. Je vous ai lu ces versets-là, je les laisse devant vous parce que vous pouvez les repasser. Mais on nous dit qu'à la fin, Satan va être délié et automatiquement, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se remet à faire la même activité qu'il faisait 1000 ans avant. C'est quoi? Égarer les gens, les séduire. Et il peut pas s'en empêcher. Il est rebelle contre Dieu, il a rejeté Dieu, il espère gagner une bataille contre lui-même si c'est écrit puis qu'il le sait, et c'est urgent. Et là, ces gens-là, imaginez, ils ont vécu 1000 ans avec Christ sur terre. Tu dis, aïe, aïe, politique parfaite. Tu sais, nous, on dit, ah, si, la politique peut être meilleure. Et là, la politique va être parfaite. Christ va être à Jérusalem. Puis là, il va régner sur la terre avec les croyants. C'est tout un autre monde, là. Pas de guerre, des règles parfaites, un roi parfait, des fêtes parfaites. Tous vont pouvoir voir Christ sur terre. On se dit, le monde ne sera plus jamais pareil. Mais ces gens sur terre, ils vont avoir des bébés. Qui vont avoir des bébés. Et chacun d'eux a des choix à faire pendant ces 1000 ans-là. Et là, on se rend compte que, après 1000 ans sur terre, de vivre avec Christ sur terre, comme les disciples ont vécu avec Christ, mais qui n'a pas régné, là, ils vont régner, là. Ça va être clair. Le monde ne pourra plus jamais être pareil. Aussitôt que Satan est délié, après une politique parfaite, parce qu'on se dit, hey, si la politique pouvait changer, le monde serait tellement meilleur. Ouais, mais on resterait pogné avec nous. C'est chez nous que ça commence, le problème. Hein? C'est pas chez les politiciens. C'est en intérieur de moi. Et Satan est délié. La première chose qu'il va faire, c'est séduire et aller chercher tous ces cœurs qui ne sont pas donnés et qui ne veulent pas suivre, mais qui se soumettent tout simplement aux règles obligatoires et qui, là, va liguer des nations. Une multitude... Non, ça ne fait pas une multitude comme le sable. C'est plutôt une multitude comme le sable de la mer qui va suivre Christ. Ben non, Il y a plein de gens qui vont juste virer de bord, qui suivaient peut-être à l'apparence, qui, au moindre moment de rébellion, vont se liguer avec Satan contre Christ qu'ils ont vu régner sur terre. Pas fou un peu, ça? Et pensez-y, là. Nous qui aspirons des meilleurs politiciens, soyons pas dupes. Même avec Christ sur terre, il va y avoir une rébellion puis une guerre sur terre aussitôt que l'ennemi est délié. Et c'est clair. Et là, on voit l'aspect de rassemblement des nations. Et on va voir aussi à la fin que finalement, ils sont tous jetés. On voit que le chapitre mentionne 4 fois « jetés ». Alors, il y a des choses qui vont être jetées par le Seigneur. Parce qu'il avait dit qu'il y a des gens qui seraient jetés selon les choix qu'ils faisaient. Et là, il y a une rébellion. Et on se dit, ben, pourquoi le Seigneur nous raconte cette histoire-là dans le chapitre 20? Pourquoi il nous met devant cette histoire macabre de ce qui va se passer dans l'avenir? C'est une question. Pourquoi il est libéré, Satan? Pourquoi le Seigneur permet qu'il fasse encore une fois une séduction du monde? Et encore là, M. Rory, je l'avais exprimé de manière, mais M. Rory l'a tellement mieux exprimé que je le cite tout simplement. Ceux-ci saisiront l'opportunité d'exprimer la rébellion de leur cœur lorsque Satan se lèvera pour être leur chef dans cette dernière révolte. Le millénium prouvera, entre autres, qu'un environnement terrestre parfait et même une connaissance universelle du Seigneur ne changera pas le cœur des hommes. Cela doit être décidé personnellement et des multitudes. Excusez-moi. Et des multitudes ne l'auront jamais fait ce choix pendant cette longue période de temps. Et leur cœur rebelle, leur nature pécheresse, va simplement prouver qu'ils n'ont pas donné leur allégeance. Et ils montrent encore une fois ici que même dans un monde avec Christ sur terre, ça ne sauve pas les gens. Chaque homme a une décision. C'est spécial, hein? Et ça sera l'ultime épreuve, encore une fois, du cœur humain. C'est là qu'on voit, Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, de gens qui acceptent l'invitation. Le genou à terre qui dit, oui, Seigneur, sans toi, je suis perdu. Prends ma vie. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Beaucoup d'apparences de gens qui y croient. Ah, lui, c'est un croyant. Lui, c'est un croyant. J'aimerais vous dire ici que les anges aussi sont des croyants. Les anges du mal, ils croient que Jésus est vraiment mort à la croix. En fait, ils le savent. Ils ont vu la gloire de Dieu. Pourtant, ils l'ont rejeté. Et malgré qu'ils croient que Dieu existe, ils ne suivent pas et ne soumettent pas leur vie à Christ. Je crois que Jésus existe. Oui, je suis un croyant. Oui, mais est-ce que ta croyance t'amène à genoux? Si elle ne t'amène pas à genoux pour confesser Christ et lui céder ta vie, ben, ça vaut rien, ta croyance. Le Seigneur est clair. Les anges du mal et Satan croient aussi en Dieu. Allons pas nous dorloter et se bercer dans l'illusion. Quand je crois. C'est pas ce que la Bible parle de croyance qui mène à la conversion. Soyons bien clairs ici. Et le cœur humain va être révélé encore une fois à ce moment-là, dans cette ultime épreuve du cœur humain. Quelle tristesse, quel avertissement sévère sur le cœur humain de prendre au sérieux l'invitation du Seigneur. Le jugement dernier. Lisons ces quelques versets ensemble. Je ne voulais pas le lire au tout début. Je voulais qu'on prenne le temps de le lire ensemble ici parce que c'est toute qu'une scène qu'on lit au verset 11. Regardez dans vos bibles avec moi ou sortez votre cellulaire, regardez et regardez attentivement le texte qui est devant nous. Alors, je vis un grand trône blanc et celui qui y siégeait, devant sa face, la terre et le ciel s'enfuient sans laisser de traces, sans laisser de lieu. Ils n'ont pas trouvé de topos, de topographie. Ils n'ont pas trouvé une place pour se mettre. C'est de là que ça vient. Imaginez, devant le juge, le ciel, la mer, tout fuit devant lui. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Et des livres furent ouverts, hein, plus qu'un livre. Et un autre livre fut ouvert, le livre de la vie. et les morts furent jugés selon leurs œuvres. On nous donne les critères ici. C'est les œuvres de chacun. D'après ce qui était écrit dans le livre. Donc, il semble y avoir un livre dans lequel toutes nos œuvres sont là. Bonnes et mauvaises. Et la mère rendit ses morts. Hein? C'est quoi ça? La mère qui rendit ses morts. Ben oui. Des millions, des millions, des millions, peut-être plus d'un milliard probablement, de gens sont morts, vous savez, au déluge. La mère en elle, des milliers, des millions de morts en elle, au grand déluge mondial. Allez pas sous-estimer le nombre de personnes qui vivaient dans le grand déluge. Vous seriez surpris du nombre qui a été estimé sur ces 1656 ans d'histoire qu'ils nous ont mentionné minimalement avant le déluge. Le nombre de personnes qu'il pouvait y avoir sur la terre. Et qui ont été jugées, on dit, la mer a rendu ses morts. Ses morts aussi à travers les siècles de gens qui sont morts en mer. Des milliers de gens morts en mer. Et là, elle va vomir, rejeter ses eaux de gens qui vont être ressuscités pour faire face à leur jugement final maintenant. Et la mort, comme si c'était des personnes, Thanatos et Hadès, rendirent leur mort. C'est de là que les Grecs hein, font de la mort et de Hadès des dieux. Hein? Mais en fait, c'est des lieux qui sont sous le contrôle que Dieu dit. Il y a la clé, Jésus-Christ. Et ils vont sortir de ce lieu temporaire des morts, où ce qui était dans un jugement temporaire, et qui là vont faire face au jugement final, à savoir où ce qui s'en va. Et chacun fut jugé, et là il redit ici, selon ses œuvres. Et on nous dit dans le livre d'Apocalypse, ils ne voulurent point se repentir de leurs œuvres mauvaises. Et là, ils font même la liste de ces œuvres mauvaises. Plusieurs listes qui touchent toutes sortes de domaines. Et c'est le livre d'Apocalypse qui en parle le plus. Et là, on dit, verset 14, « Alors, la mort et l'Hadès furent précipités dans l'étang de feu. » Pour ces gens qui sont jugés selon leurs œuvres, mais là, ils n'ont pas d'avocat. Il n'y a pas, « Ah, mais lui a été blanchi par Christ. OK, libéré. » Non. Ils sont jugés selon leurs œuvres parce qu'ils n'ont pas accepté l'œuvre de Christ. Vous comprenez? Tu n'es pas jugé selon tes œuvres lorsque tu t'es soumis à l'œuvre de Christ à la croix qui lui a réglé tes problèmes d'œuvre. Eux sont jugés avec leurs œuvres. Pas d'avocat, pas de défense. C'est un jugement assez particulier. Cette scène n'est pas comme un tribunal moderne. Au jugement du grand trône blanc, il y aura un juge, mais pas de jury. Un procureur, mais pas d'avocat à la défense. Une sentence, mais pas de possibilité de faire appel. Et là, on lit au verset 14, vous précipitez dans l'étang de feu. L'étang de feu, voilà la seconde mort. Et Jésus va en parler de cet étang de feu-là, et il dit qu'elle était un étang de feu éternel. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Chapitre 25 de Matthieu, verset 46. Il y a une bénédiction, le ciel éternel, et il y a un jugement éternel. Et je n'oserais le déclarer. Si Jésus ressuscité des morts ne l'avait dit, c'est lui qui dit, pas moi. Et quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut précipité dans l'étang de feu éternel. La mer, et là j'ai tout parlé de ces éléments-là ici, sur les gens noyés, etc. Alors je passe rapidement ces versets. Et la mort et Hadès furent jetés. Et je voulais répéter, jetés, jetés, jetés. C'est un chapitre, dans le fond, qui nous parle de ce que Christ va jeter à la fin des temps. C'est vraiment ça. Au verset 3, 10, 14, 15, il jette, il jette, il jette. Après avoir donné grâce, donné du temps, donné sa patience, d'avoir attendu, alors que les gens riaient. Oui, oui, non, il ne reviendra pas. Ça fait 2000 ans. Vous êtes bien naïfs, les chrétiens. Il a dit qu'il viendrait. Il est parvenu encore, là, puis regarde, il y a toujours des signes des temps. Voyons. Il va continuer à patienter. Il n'est pas revenu encore aujourd'hui parce qu'il patiente encore pour que certains dans cette salle, pour certains qui écoutent en différé, qui sont en direct à la maison, pour que vous preniez une décision. Ce n'est pas se moquer. Sa patience, c'est une grâce. Voilà ce qui est la deuxième mort, d'être ressuscité, puis finalement d'être jeté dans les temps de feu éternel pour mourir une deuxième fois permanente après avoir été jugé. Et l'Église a été avertie qu'elle ne, elle, les croyants qui ont mis leur vie entre les mains de Christ et qui ont cru dans son pardon, dans son sacrifice, eux autres vont être épargnés la deuxième mort. Ça faisait partie des promesses qu'on retrouve pour l'Église, entre autres, l'Église de Simeon, très persécutée au chapitre 2, verset 11. Et si quelqu'un n'est pas trouvé dans le livre de la vie, ceux qui ont été lavés par le sang de Jésus-Christ, bien, c'est là qu'ils vont. Pensez-y. Il vient de passer 30 secondes, puis ça a paru comme une éternité. Mais on est à 30 secondes plus proche du jugement dernier. C'est sérieux. Si le Seigneur juge que le livre d'Apocalypse est à la fin de la Bible, il nous avertit comme ça. C'est de la gentillesse. Il ne veut pas qu'on aille là. Et vous avez le souffle, et on a le souffle de vie. Il nous avertit. N'est-ce pas de la grâce, ça? Avertir. 20 secondes de silence. Quel malaise pour nous. Combien plus le malaise de passer l'éternité séparée parce que notre dette n'est pas réglée. Je lisais à propos d'un État aux États-Unis, le Mississippi, et on peut encore trouver ça sur l'Internet aujourd'hui, ils ont une vieille dette qui traîne. Ils ont pris des bons pour 7 millions d'emprunts en 1841, le Mississippi. Et encore à ce jour, la Banque d'Angleterre qui leur a prêté leur envoie une lettre à chaque année pour leur rappeler leur dette que l'État de Mississippi a décidé de ne pas payer. Vous savez, les banquiers européens, ils n'oublient jamais ta dette. C'est ce que les fonctionnaires de l'État du Mississippi disent et croient. Parce qu'ils reçoivent à chaque année une lettre qui rappelle que leurs 7 millions est devenu 50 millions. Et ça, c'était le chiffre dans les années 80. Vous savez, si les banquiers n'oublient pas les dettes, nous avons une dette de culpabilité qui est devant le Créateur. Et la Bible est claire que notre dette ne disparaîtra pas. Et qu'un seul moyen que notre dette peut disparaître. Un seul moyen. Et Jésus en a parlé. Vous savez cette histoire dans le chapitre 18 de Matthieu, hein? C'est cette dette auprès d'un roi. Et le montant qui est décrit là, c'est pour décrire un montant qui était c'était pas possible de payer. Une dette impayable. Et comment cet homme-là a pu payer sa dette? Vous vous rappelez? Il a reconnu qu'il n'était pas capable de le payer, puis il a clamé pitié. Et le cœur du roi lui a remis sa dette, aussi incroyable que ça puisse paraître. Mais cet homme-là n'avait pas réalisé et compris qu'est-ce qu'il était offert. Il était reviré de bord, puis il est allé voir quelqu'un qui avait une toute petite dette, puis il a foutu une volée, l'a mis en prison, puis il dit: toi, tu vas payer mon. Il n'oubliait pas sa dette, mais il oubliait que lui, il avait une dette impayable, puis il n'avait pas de reconnaissance, il n'avait pas saisi, tout comme beaucoup entendent parler de cette dette qui peut être lavée par Jésus, qui servir de base, et clairement, ils n'ont pas compris. Parce que quand tu comprends, ta vie n'est qu'une grande reconnaissance après. Une dette impayable a été payée pour moi. La dette ne s'effacera pas, à moins que Christ la prenne. Mais pour que cette prise de position soit efficace, il faut que je croie. Et que je ne croie pas comme les gens disent en général, je suis un croyant, superficiellement, religieusement. Non, la vraie foi qui sauve, celle qui fait que toute ma vie est en jeu, toute ma vie bascule. Et que Jésus appelle la nouvelle naissance, la conversion. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser de cette dette autrement. Et Jésus a adressé ce problème. Qu'en est-il pour vous aujourd'hui? Je vous laisse avec ces deux réflexions. Jésus a enseigné sur le jugement et l'enfer souvent en avertissement, dont, entre autres, justement, regardez les versets de Matthieu 18, c'est exactement l'histoire que je vous parle. L'enfer est témoin d'un Dieu qui est juste, qui ne tolère pas le mal et qui adresse le péché, particulièrement alors que celui-ci, un remède y a été donné et que le remède est rejeté. Et la responsabilité de l'homme de choisir ou de refuser ce salut. Dieu, dans son amour et avec justice, a pourvu un moyen de salut. Il tend encore la main aujourd'hui pour que les pécheurs se repentent. J'ai invité l'équipe de louanges à s'approcher pour terminer. Et je vous lis ce verset en terminant. Écoutez bien attentivement Jean chapitre 5. Vous pouvez fermer les yeux puis écouter attentivement. Je vous lis Jean chapitre 5, versets 24 et 25, qui dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, donc qui croit au Créateur, le Père céleste, que je suis envoyé de lui, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. C'est de ce jugement-là qu'on parle. Mais il est passé de la mort à la vie. Conversion, nouvelle naissance. Ce qui était passé, passé. J'ai un nouveau régime de vie, un nouveau maître. En vérité, il dit au verset 25, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Faites-vous partie de ceux qui entendront, après votre mort, la voix du Seigneur, et qui vivront, ou ceux qui reviendront à la vie pour mourir une deuxième fois. On a peur de la première mort. Elle nous fout la chienne en bon québécois. Tous les gros bras avec des gros muscles qui ont dit toutes sortes d'affaires, ils arrivent et ils cassent devant la mort. Ils braillent, ils ont peur. Ils demandent à parler à quelqu'un tout à coup. Et tout à coup, oh, là, ils pensent à l'au-delà. Après avoir passé une vie à maudire Dieu, à faire ce qu'il voulait. Même le plus fort devant la mort a peur pour la première mort. Hey! On parle d'une deuxième, si tu n'as pas compris à la première. C'est du sérieux, là. Et moi, j'oserais pas le dire si ce n'était pas Jésus qui le dit. Soyez pas frustrés contre moi, puis dire, le prédicateur est arrogant le matin. C'est la parole de Dieu qui le dit, pas moi. Je ne suis que l'émissaire. Qu'allons-nous faire ce matin? Prions. Seigneur, ta parole est bonne, elle est gracieuse, elle nous avertit et montre un Dieu parfait qui aime et qui ne prend pas à la légère le péché. Seigneur, notre société prend à la légère le péché, rit du péché, rend péché le bien et sanctionne le péché comme étant bien dans la loi. On inverse les vérités, Seigneur, aujourd'hui, parce que ta parole a été rejetée, parce que Christ a été rejeté, parce que le Fils de Dieu envoyé sur terre, gracieusement par le Créateur, pour nous tendre la main, pour ce plan de sauvetage de la planète, a été rejeté, craché dessus. Seigneur, en est-il de nous ce matin qui écoutons, qui lisons ta parole? Qu'en est-il de nous? Est-ce que je suis encore en train de reporter une décision que tu m'invites à prendre maintenant? Est-ce que je suis encore en train de dire des choses et que je ne les vis pas? Alors que la vie est si courte que peut-être la vie me sera enlevée la semaine prochaine. Que peut-être j'apprendrai que j'ai un cancer dans 6 mois. Et que peut-être je vivrai une longue vie et que je mourrai dans mon lit en dormant à 86 ans. Je ne sais pas. Mais Seigneur, suis-je prêt aujourd'hui? Avec tout ce que j'entends et que je sais, suis-je prêt? Quelle excuse que j'ai encore à mettre pour reporter, Seigneur? Cette décision. Pardonne-nous, Seigneur, cette incrédulité, cette arrogance naturelle en nous qui ne prend pas au sérieux le jugement de Dieu pour lequel on est averti tant de fois. Je te prie, Seigneur, pour l'âme de chaque personne ici présente, qui entend, qui écoute en différé, en présentiel, comme en diffusion directe, Seigneur, peu importe. Qu'est-ce que je fais de toi aujourd'hui? C'est du sérieux. Que mon âme ne reporte pas encore une fois. Mais qu'elle fléchisse le genou ce matin et dit, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur, de prendre pour acquis un si grand pardon. Merci d'être venu quand on t'invitait pas. Merci d'avoir tracé un chemin que je ne pouvais pas trouver ni construire. Merci de continuer d'avertir. Merci pour ta parole, la parole de Dieu que tu as vu bon de protéger dans tant de langues et qui nous permet d'entendre parler la voix de Dieu. Il y a tellement de livres, mais il y a un seul livre, la Bible. Puissions-nous la prêter, Seigneur, et la prendre au sérieux. Nous te prions dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen.